Bonjour, c'est Zoé de Louis. Devenir parent, c'est ouvrir la porte vers une nouvelle vie pleine de changements et vers un nouveau rythme qui est parfois compliqué à gérer. Comment continuer à sortir après la naissance de son enfant? Et comment trouver des lieux appropriés? Evian, l'eau parfaitement adaptée aux besoins d'hydratation des bébés qui soutient ce podcast, a recensé avec l'aide de jeunes parents les adresses idéales à Paris, Lyon et Marseille pour sortir avec ses enfants. Evian soutient les nouveaux parents dans leur mode de vie et leur approche de la parentalité. Un peu comme Fête des Gosses finalement. Merci à Evian pour leur soutien et bonne écoute.
Le débat est toujours passionnel dans notre pays, qui est à la traîne au palmarès de l'allaitement maternel.
En France, environ une femme sur deux choisit de donner le sein à son bébé.
Une maman sur trois allait encore son bébé 2 mois après sa naissance.
C'est loin des standards européens.
C'est trop peu pour l'OMS.
L'OMS, c'est-à-dire 6 mois d'allaitement exclusif.
Et après, allaitement partagé jusqu'à 2 ans.
Sein ou biberon?
L'allaitement ne convient pas à toutes les femmes.
Qu'est-ce qui est le mieux pour mon bébé?
Il y a celles pour qui la question ne s'est jamais posée.
La maman, naturellement, sait dans quelle position s'installer confortablement pour amener son bébé au sein. J'ai envie de parler de continuité avec la grossesse.
Et puis, il y a les autres, celles qui hésitent.
J'ai toujours été persuadée que j'allaiterais au sein. J'estimais que le biberon permettait un partage des tâches plus équitable entre les deux parents, et l'idée de me sentir comme une vache laitière ne m'emballait pas plus que ça. Mais je voulais connaître ce qu'on me présentait comme une expérience de fusion avec mon bébé. Et en fait, non. Au fur et à mesure de ma grossesse, le choix s'est imposé presque tout seul. J'allais avoir bien trop de choses à gérer après la naissance de cet enfant. J'allais être fatiguée, sous tension peut-être, potentiellement déprimée aussi. Je n'avais pas envie de m'en rajouter une couche. Allaiter au sein, si beau soit le geste, m'est petit à petit apparu comme la goutte d'eau qui pourrait faire déborder l'océan de loose que risquait d'être mon postpartum. Celui où on ne se reconnaît plus, où on est en colère contre tout le monde, où on s'éteint. J'avais pas le courage. J'ai quand même essayé la tétée d'accueil, comme on dit. Il était 23h, j'étais exténuée, alors non. J'ai fermé boutique et je suis allée me coucher. J'ai renoncé sans regret. Et je marche un peu sur des œufs en vous racontant ça. Parce que l'allaitement est un sujet clivant. Allaiter ou non, allaiter un peu ou le plus longtemps possible. Allaiter partout, mais sans laisser apercevoir un sein. Et c'est compliqué de choisir. L'OMS recommande l'allaitement exclusif jusqu'aux 6 mois de l'enfant, mais le féminisme a longtemps considéré que c'était une aliénation. Aujourd'hui, il dit « laissez les femmes choisir ». Et je me suis demandé, moi, comment elles choisissent, justement. Car en plus des clivages, il y a l'idée que l'on se faisait de l'allaitement au sein, l'idée que l'on se faisait de sa grossesse, de soi en tant que mère, et il y a l'entourage, le contexte économique, social, le Covid, la belle-mère. Et tous ces paramètres viennent aussi piper les dés. Je précise allaitement au sein, car le biberon est aussi un acte d'allaitement. On donne du lait. Mais dans cet épisode, on parlera d'allaitement pour allaitement au sein, pour simplifier. J'ai donc demandé à des femmes comment elles avaient pris la décision d'allaiter ou non leur enfant. Ce qui avait été décisif, ce qui les avait fait douter. Si elles avaient regretté leur choix ou si quelqu'un leur avait fait regretter.
Tu veux manger encore ?
Parce que si vous attendez un enfant, vous êtes peut-être en train de faire une liste de pour et de contre. Vous dire que l'allaitement fait maigrir, mais que ça fait mal aussi. Que c'est mieux pour le bébé, mais est-ce que c'est vraiment mieux pour vous ? Que c'est un super moyen de tisser un lien avec son enfant, mais que c'est fatigant. Que ce serait super, mais que vous avez peur. Que c'est naturel, mais naturellement difficile. Une amie qui hésitait m'a confié un jour que son médecin lui avait dit « Si vous le faites pour votre enfant, ne le faites pas. » Autrement dit, il faut le faire parce que vous le voulez et que c'est le bon choix pour vous. Je suis Marine Revol, vous écoutez Fête des Gosses et j'espère que les récits de ces 5 femmes vous aideront à faire le bon choix pour vous.
Fête des Gosses!
Fête des Gosses!
Fête.
Faites des gosses.
Faites des gosses.
Faites des gosses.
À moins que vous ne viviez totalement au jour le jour, la question de l'allaitement se pose en amont de l'accouchement. Vous imaginez à quoi ressembleront les premiers jours, les premiers mois avec votre bébé. Et sur cette petite image que vous avez dans un nuage au-dessus de votre tête, il n'y a pas de vomi, ce qui est une erreur, mais il y a soit un bébé collé à votre sein, soit un bébé qui tète un biberon. Colline a 36 ans et un bébé de 5 mois et demi. Et pour elle, ça n'a pas vraiment été une question. L'allaitement s'est imposé comme quelque chose de naturel.
Paradoxalement, j'étais presque plus sûre d'allaiter mon enfant si je choisissais d'en avoir, plutôt que du fait que j'aurais des enfants un jour. Je ne sais pas si ça fait sens, mais voilà, pour moi, c'est bébé égale allaitement. J'ai jamais réfléchi autrement. Moi, j'ai l'impression que j'ai jamais vraiment choisi d'allaiter. C'était juste un truc qui était normal, qui était en fait dans la continuité. J'ai été enceinte, j'ai fait ma grossesse, j'ai accouché et après j'allaite. C'est à peu près aussi normal que le fait que je savais qu'à un moment, elle allait, mon bébé allait sortir de moi et dans la continuité, j'allais l'allaiter. Je pense que c'est dû au fait que ma mère m'a allaitée et qu'elle a allaité ma petite sœur et que ça a été une démarche dont elle a toujours parlé de façon très positive. Alors que tout n'est pas forcément positif dans son récit de sa maternité.
C'était également une évidence pour Cécile. Et elle aussi, en partie en raison du modèle familial.
J'ai deux filles, une de bientôt 5 ans et une de bientôt 1 an.
Mais enfin, elle, c'était l'évidence inverse.
Et je n'ai allaité aucune des deux. Enfin, je me suis peu posé la question finalement de est-ce que si j'allais allaiter ou pas. En fait, je pense que la façon dont ça m'a l'air, quand je vois autour de moi mes copines, d'être évident pour elles qu'elles vont allaiter, c'était évident pour moi que j'allais pas. Mais je sais pas exactement dire pourquoi. Je dirais, moi, j'ai pas été allaitée. Je pense que quand on s'est déjà retrouvé à parler d'allaitement avec ma mère, et elle, ça l'étonnait, je pense que ça l'étonne encore beaucoup, ce retour de hype, entre guillemets, de l'allaitement au sein. Parce que elle, en tant que, dans les mouvements féministes des années 70, c'était plutôt une libération. Enfin, le biberon et de ne pas être obligé d'allaiter au sein, et c'était vu comme une libération, je pense.
On fait tout avec nos corps, allaiter ou non. C'est aussi une question de rapport à sa peau, à sa chair, à la forme de ses courbes, à ce qu'on choisit de faire de son corps dans la vie. Celui de Colline a été à la disposition des médecins pendant les 3 années qu'a duré le parcours PMA qui lui a permis d'avoir sa fille, aujourd'hui âgée de 5 mois. Et cette approche médicalisée lui a donné envie de se réconcilier avec un corps qu'elle jugeait défaillant. Pour elle, c'est passé justement par l'allaitement.
C'est-à-dire que moi, mon corps, il n'a pas marché pour faire un enfant. Il a fallu que je fasse appel à la médecine. Donc ça devient très mécanisé, ça devient très encadré. Et en fait, après tout ça, une fois que j'ai été enceinte, j'ai vraiment ressenti le besoin d'accoucher de façon totalement physio, sans péridurale. Et après, d'allaiter le plus longtemps possible. J'avais vraiment envie qu'il n'y ait plus d'intermédiaire entre moi et mon enfant. Et donc, le biberon étant un intermédiaire, j'avais pas envie de donner le biberon. Je voulais que ce soit mon lait et mon sein. C'était très important, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas non plus réfléchi et formulé. Ça, c'est venu après, quand les gens m'ont commencé à me poser des questions. Mais moi, c'était juste un truc très normal, Très normal. Et jamais j'ai pensé « ça va pas marcher ». Je savais qu'elle et moi, on saurait faire, en fait. Donc, un truc simple, après des années de galère.
Ce que dit Colline, c'est que l'allaitement est venu accompagner l'envie d'un retour au naturel. Dans la manière de nourrir son enfant, mais aussi d'accoucher et de vivre sa vie de parent. C'est aussi ce qu'il s'est passé pour Lisa.
Je suis passée par un parcours PMA pour avoir mon fils à la suite d'un diagnostic du syndrome des ovaires polykystiques. À la suite de ça, en fait, je me suis vraiment penchée sur la question des perturbateurs endocriniens qu'on trouve dans l'alimentation, dans les produits cosmétiques, dans les produits d'hygiène de la maison, etc. J'ai vraiment cherché à changer complètement mes habitudes sur le maquillage, les produits de soins, etc. Et donc, je pense que ça m'a vraiment fait virer complètement. Ça m'a vraiment complètement changé ma vie, en tout cas mon quotidien, puisque j'avais bien conscience que ça avait certainement joué dans ce diagnostic. Et comme je voulais mettre toutes les chances de mon côté pour tomber enceinte, j'avais pas envie de me rajouter tout ça. J'ai aussi, à cette époque-là, changé, je me suis remis au sport, j'ai perdu du poids, j'ai vraiment été dans une dynamique de reprise de maîtrise plutôt de mon corps. Et quand on est vraiment rentré dans le parcours PMA, bah du coup, il y a eu des traitements, des hormones, beaucoup de prises de sang, d'échographies, de médicales. Et je crois que quand du coup je suis enfin tombée enceinte, ça m'a donné envie d'aller vers quelque chose de très naturel. Donc j'étais très très dure avec moi-même sur toute la grossesse pour ne pas prendre le moindre risque en termes de médicaments, de produits de beauté aussi, d'alimentation, n'en parlons pas. J'ai travaillé parce que je voulais un accouchement physiologique sans péridurale, etc. Donc je pense que tout ça, ça allait très bien avec l'idée que de toute façon j'allais allaiter. Je n'avais aucune confiance dans tout ce qu'on pouvait trouver dans le lait en poudre. Enfin, en tout cas, ça me paraissait très chimique. Et du coup, j'avais l'impression que c'était toxique. Enfin, en tout cas, c'était mon ressenti. J'ai le sentiment de ne pas avoir choisi d'allaiter. C'était, pour moi, c'était une évidence. Il n'y avait pas d'autre option. Et aujourd'hui, le fait d'être encore en train d'allaiter alors que mon fils a 10 mois, je pense que ça joue aussi là-dessus.
Pour Cécile, au contraire, récupérer son corps, c'était littéralement récupérer son corps. Faire sienne à nouveau la chair qu'elle avait dédiée pendant 9 mois à une autre personne. J'ai presque envie de dire sacrifier, mais je voudrais pas choquer les happy moms de la salle. Et surtout, elle voulait ses seins.
Je pense que c'est assez personnel. Déjà, pendant la grossesse, ton corps devient vraiment autre. Et j'aimais bien l'idée et de retrouver mon corps et aussi que mes seins, qui ont toujours été pour moi... j'aime bien mes seins et ça a toujours été pour moi une partie assez sexuelle, sexualisée de mon corps avec moi-même même. Et j'aimais bien l'idée que ça le reste en fait et que ça soit pas... que ça devienne pas autre chose et que ça devienne pas nécessairement une partie de mon corps nourrissante, quoi.
Les seins, c'était en revanche le cadet des soucis de Colline et de son mari, puisque c'était une zone peu investie sexuellement par le couple.
Ça n'a pas du tout été un sujet pour moi de choisir d'allaiter ou pas. Enfin, ça n'a pas été un sujet non plus pour mon mari. Et ça, c'était agréable en fait, parce que la PMA, c'est un moment très difficile pour un couple, parce qu'on ne vit pas la même chose, parce qu'on est biologiquement différent et parce qu'on n'a pas la même personnalité dans un couple. Mais là, pour le coup, on était vraiment... Il n'y a même pas eu trop de discussions. Je pense que le fait qu'on ne soit pas des dingues de seins, tous les deux, en rigolant dans les... Souvent, on dit il y a les hommes qui aiment les fesses et il y a les hommes qui aiment les seins. Moi, je crois que mon mari, ça n'a jamais été un dingue de gros nibards, tout ça. C'est pas son truc. Nous, voilà, je pense que ce n'était pas un sujet. Donc, tout le monde était bien aligné.
Mais qu'on soit clair ou non, aligné avec l'autre parent ou non, les envies peuvent bouger. Cécile, au bout d'un moment, a d'ailleurs fini par douter.
On allait voir une aptonome. Elle m'avait demandé, d'ailleurs, on m'a jamais fait chier sur le fait que je voulais pas allaiter au sein pendant mes grossesses, ni à la maternité, les médecins, rien, quoi. Et elle me demandait justement si je voulais allaiter au sein. Et en discutant et en réfléchissant, je m'étais dit, en fait, genre, j'en ai pas envie, mais j'ai un peu envie de voir ce que ça fait. Et quand je lui ai dit, elle m'a dit, écoutez, si vous avez envie de tester pour vous et votre enfant, grand bien vous fasse et peu importe si ça marche pas, quoi. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Par contre, si c'est vraiment juste pour vous, pour l'expérience, moi je serais vous, je me poserais quand même la question parce que mine de rien, c'est pas anodin pour l'enfant d'avoir le sein puis de ne plus jamais l'avoir, quoi. Donc peut-être que si c'est juste pour vous, bon. Et ça m'a fait réaliser que c'était complètement égoïste. Et en ayant cette discussion avec elle, je me suis dit « Ah ouais, non, en fait, c'est vraiment juste, c'est vraiment juste pour moi, pour expérimenter. » Donc, ça me paraît pas... Je savais que je voudrais pas le faire, en fait. Donc, je me suis dit « Je vais pas essayer pour moi, en fait. » Donc, je n'ai fait aucune tétée, pas de tétée d'accueil, rien du tout.
L'envie de tester de Cécile m'a traversée moi aussi. Mais à l'idée de donner pour reprendre, j'ai directement imaginé mon fils sur le Titanic, abandonné en troisième classe à attendre que la première classe monte dans les canaux. Et l'histoire de Cécile et de son aptonome, elle pose au fond cette question. Est-ce qu'on fait ce choix pour soi ou pour son enfant? Car oui, l'allaitement, c'est mieux pour le bébé. Toutes les études le disent. L'OMS dit mot pour mot que l'allaitement exclusif au sein pendant les 6 premiers mois est le mode d'alimentation optimal du nourrisson. et aussi que le lait maternel favorise le développement sensoriel et cognitif et protège le nourrisson contre les maladies infectieuses et chroniques. Et enfin, que ces effets peuvent être mesurés aussi bien dans les sociétés pauvres en ressources que dans les sociétés d'abondance. En revanche, on ne dit pas toujours à quel prix. Même sans allaiter, Cécile en a bavé. Et c'est aussi ça qui l'a confortée dans son choix et qui lui a confirmé de ne pas non plus allaiter pour sa deuxième fille, née il y a un an. Selon elle, l'allaitement, c'est bien, mais pas au prix de la santé mentale de la mère.
Mon premier postpartum a été difficile. C'était vraiment... Enfin, autant j'étais très préparée, je pense, à la grossesse et même à l'accouchement, autant du coup, j'avais un peu oublié de me renseigner sur la suite et ça s'est pas très bien passé et je me sentais très coupable de ce que je ressentais, de la fatigue, du fait de pas vouloir être avec mon enfant non-stop, enfin bon, tout ça. Et du coup, je me dis que si j'avais eu en plus l'allaitement qui, de l'expérience de mes amis autour de moi, peut bien sûr bien se passer, mais peut aussi souvent mal se passer, être difficile, faire mal physiquement. On peut se sentir encore plus en situation d'échec si ça marche pas, alors qu'évidemment, c'est pas de notre faute. Mais je pense que si je m'étais rajouté ça en plus sur mon état mental et psychologique post-accouchement, vraiment, j'aurais pété un câble, quoi. Et je pense aussi que si du coup j'avais dû assurer un allaitement au sein les nuits, ça aurait été aussi encore plus difficile pour moi mentalement et physiquement, parce que j'étais épuisée. Ce qui est marrant, c'est que j'ai l'impression autour de moi d'être vraiment une exception. Je pense que sur, je sais pas, une trentaine de copines plus ou moins proches qui ont eu des enfants dans les dernières années, je crois que genre on est deux à pas avoir allaité au sein.
En France, selon l'enquête nationale périnatale menée en 2021 par l'INSERM, 56,3% des femmes allaitent leur enfant exclusivement au sein juste après l'accouchement. Et ce chiffre chute à 34,4% deux mois après. Ce qui est intéressant, c'est qu'elles étaient initialement 64,8% à souhaiter allaiter. Cela nous dit donc deux choses. Que Cécile n'est pas une exception rare, puisque 35% des femmes ne souhaitent pas allaiter, mais aussi que celles qui le veulent ne sont pas suffisamment accompagnées pour mener à bien leur projet, puisqu'elles arrêtent plus vite qu'elles ne l'avaient prévu.
Et en fait, finalement, ce qui a été le plus difficile pour moi, ça a été vraiment le séjour à la maternité.
Lisa.
Puisque peut-être que j'aurais eu besoin d'être un peu plus accompagnée. Alors, on sait comment sont les maternités aujourd'hui, avec les difficultés de recrutement et de moyens. Donc, je ne tape absolument pas sur les équipes en place qui ont été super. Mais c'est vrai que du coup, j'ai pas du tout eu l'accompagnement qui aurait été facilitant. J'ai trouvé que la toute première mise au sein avait été très brutale puisque j'étais en salle de naissance, mon bébé avait 2 heures. Et en fait, j'ai appelé pour dire j'aimerais faire la tétée d'accueil. Et en fait, il y a eu, je sais pas, 3-4 personnes qui sont rentrées d'un coup. J'ai vu une sage-femme attraper la tête de mon bébé, la plaquer sur mon sein et... Ça m'a paru d'une violence extrême sur ce petit être fragile. Et après, voilà, j'ai eu ensuite de couches des fois des avis très différents de la part du personnel soignant. Et il y avait beaucoup de stress sur le fait qu'il fallait bien noter chaque tétée, voir le voilà, complémenter avec des seringues, avec des dalles, avec plein de choses.
L'accompagnement. C'est aussi évidemment celui du deuxième parent. C'est aussi son implication qui rend le projet viable ou non. Parce qu'au biberon, il y a un partage des tâches possible. Au sein, moins. Ce que reconnaît Colline en dépit de son enthousiasme.
Donc l'allaitement, voilà, je dis que c'est normal, que c'est simple. Mais il y a aussi un peu le problème inverse, hein, c'est-à-dire que c'est un peu la solution de facilité pour tout le monde. Surtout pour les autres, c'est-à-dire que quand mon bébé râle, voilà, quand elle a faim, quand elle n'arrive pas à dormir, quand l'adulte qui s'en occupe en a assez, voilà, on me l'attend et on me dit « bah tu peux lui donner le sein ». Et j'avoue, moi, j'aime pas trop ça. J'aime bien allaiter quand elle a besoin, mais quand moi, j'en suis capable aussi. Et il y a des moments, bah, en fait, j'ai pas envie ou je suis pas dispo. Et ça commence à être frustrant au bout de 5 mois, sachant que c'est quand même principalement moi qui la garde, même si voilà, j'ai quand même de l'aide, notamment de mon mari qui est très présent. Mais ouais, je trouve que le sein ne peut pas être la réponse à tout, quoi. Donc en fait, je pense qu'on peut quand même qualifier l'allaitement d'ambivalent dans ma vie. Je pense que c'est 70% de kiff, sachant qu'en plus, plus le temps passe, plus c'est simple. Et après, il y a 30% de moments relous. Mon boulot, c'est d'écrire. Hein. Je suis journaliste, autrice, donc j'ai besoin d'avoir du calme et des plages horaires de calme et des plages horaires où je sens que j'ai envie / besoin d'écrire. Et en fait, non, parce que le bébé, parfois, a besoin à un moment où moi, j'ai envie de travailler, quoi.
Vous pouvez tirer votre lait et le mettre dans un biberon. C'est une petite logistique. Mais globalement, vous êtes LA source pour subvenir aux besoins de votre enfant, qui mange à peu près comme moi en période de stress ou de Top Chef, c'est-à-dire toutes les 3 heures. Cette responsabilité-là, cette charge supplémentaire, elle peut être difficile à vivre lorsque l'on n'a pas le postpartum de rêve vendu sur les pubs pour les écharpes de portage. Le partage des tâches a été salvateur pour Cécile, par exemple.
Et le fait d'allaiter au biberon, ça veut dire qu'on a tout de suite et dès le début fait des shifts, on faisait des shifts. Genre, du moment où on se couche jusqu'à 1 heure, c'est moi, de 1 heure à 3 heures, c'est toi, de 3 heures à 5 heures, c'est moi, de 5 heures à 8 heures. Enfin, ce genre de truc en fonction du nombre de biberons aussi. Ça a vraiment, franchement, je pense que ça m'a sauvée sur ma première fille, c'est sûr. Et c'était tellement une bonne solution que je me suis même pas posé la question pour la deuxième. En plus, je pense que si t'en allaites au sein un enfant, tu te dis qu'il faut allaiter l'autre au sein aussi, sinon c'est bizarre, et vice-versa. Donc je me suis vraiment pas posé la question pour la deuxième.
Ah, ça serait super si je pouvais le nourrir au sein.
Oui, bon, écoute, hein.
Faites des gosses.
En France, les pouvoirs publics multiplient les campagnes d'incitation à l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois, comme le recommande l'OMS. Ces campagnes peuvent avoir l'effet pervers de renforcer la pression sur les femmes. Pauline a accouché en février, et elle aussi a senti, dès sa grossesse, une pression à l'allaitement.
Du coup, moi, j'ai choisi d'allaiter avant sa naissance. Un peu, je pense, par pression sociale. C'est-à-dire que je pense que quand même, que je le veuille ou non, le fait que l'allaitement soit extrêmement valorisé socialement et notamment dans la sphère médicale, ça a beaucoup pesé, je pense, dans mon choix de manière plus ou moins consciente pendant la grossesse. Après, bien sûr, c'est pas l'unique raison. J'ai tellement aimé être enceinte que je me disais que l'allaitement, il y avait un côté très physique, très sensoriel qui ferait que je continuerais à me sentir très proche de mon bébé. Donc ça, c'est ce que j'avais imaginé. Et puis, en plus, je trouve que dans les cours de préparation à la naissance, même si le mien était assez inclusif, l'allaitement est vraiment présenté comme voilà, la panacée et tout le monde à peu près veut allaiter. Enfin, en tout cas, autour de moi, tout le monde voulait allaiter quasiment. Et c'est vrai que c'est même presque un peu tabou de dire qu'on veut donner le biberon, alors que je trouve ça problématique, puisque chacune a ses raisons de choisir l'un ou l'autre. Et donc moi, je suis partie en me disant ça, en me disant je vais essayer, et puis on verra bien. Par contre, je voulais pas que ce soit un chemin de croix, je voulais pas que les premières semaines de mon bébé soient marquées par des souffrances, des pleurs, des grosses difficultés dont j'avais entendu parler. Ça, je n'étais pas prête à vivre ça et je pensais que ça n'aiderait pas le lien avec mon enfant. Et je m'étais dit que si c'était trop douloureux ou trop compliqué, je ne m'entêterais pas. J'ai accouché, ça s'est bien passé et on m'a mis le bébé au sein pour faire ce qu'on appelle la tétée d'accueil ou tétée de bienvenue. Expression que je déteste parce que ça sous-entend que les mères qui ne le font pas ne souhaitent pas la bienvenue à leur enfant. Ça, je trouve ça ridicule. Vraiment, stupide comme expression. Mais bref, moi, je voulais la faire en tout cas et je l'ai fait. Et donc, j'ai mis mon enfant au sein dès ses premières secondes de vie. Et bon, j'ai à la tétée et pour le coup, j'ai aimé ça. Enfin, j'ai pas un souvenir très précis, mais j'ai aimé ça. J'ai eu envie de continuer.
Le double effet qui se coule, c'est que ces injonctions, allaiter pour être une bonne mère, mais pas trop longtemps pour ne pas être une personne malsaine, se croisent avec d'autres injonctions bien connues des femmes, même celles qui ne sont pas mères. Comme celle du corps parfait. Leïla a 2 enfants, une fille de 6 ans et un garçon de 2 ans et demi, qu'elle a tous les deux allaité pendant 3 mois, avant de reprendre le travail.
La question ne s'est pas du tout posée parce que j'avais une image de choses qui était assez d'un acte assez naturel, assez évident, assez logique. Et puis je pense que j'avais aussi dans ma famille, notamment ma mère, qui est très très pro allaitement, même si je crois qu'elle ne m'a à peine allaitée, mais elle est quand même pro allaitement. Et donc je voyais très bien quand elle parlait d'autres mères, elle avait quand même une vision assez culpabilisante des mères qui n'allaitaient pas. Donc je pense que c'est pas complètement étranger. Voilà, je pense qu'il y a une grosse part de volonté, mais il y a quand même une part d'injonction quelque part sur l'allaitement, et puis aussi l'injonction à retrouver aussi un corps qui ressemblait au corps d'avant grossesse assez vite. Et on sait que l'allaitement, en tout cas, est souvent vendu comme un acte qui permettrait de brûler des calories, etc. Donc je pense que ça faisait aussi partie, peut-être de manière inconsciente, en tout cas, des motivations, de me dire, tiens, si j'allaite, peut-être que je perdrais mes 20 kilos que j'avais pris pendant ma première grossesse. Voilà, c'était peut-être un petit peu le cas.
Quand j'écoute Cécile et Pauline, quand j'écoute Colline et Lisa, je me dis que le choix d'allaiter ou non est déjà une sorte de combat. Une bataille de mousquetaires un peu branlant entre sa culpabilité, son désir de bien faire, la fatigue et sa santé mentale. Et même après. Leïla avait décidé d'allaiter coûte que coûte et elle a vécu toute cette période comme un combat avec elle-même.
J'ai découvert des trucs comme les tétées folles, où le bébé peut rester complètement scotché au sein entre 24 et 48 heures. Donc moi, j'étais en craquage nerveux, j'étais au bord des larmes parce que ma fille ne voulait pas se décoller. Et donc là, j'avais appelé SOS Allaitement. Voilà, mon mari avait vu une affiche à la maternité, donc il avait pris en photo le numéro, il s'est dit « on ne sait jamais ». Et SOS Allaitement, bah voilà, ça a été la découverte. Et en fait, elles m'ont vachement rassurée. Elles m'ont donné pas mal de conseils. Parce que l'allaitement, il y a quand même, en tout cas pour moi, ça a été vachement ça, quoi. Il y a quand même un truc de combat. Au début, où on se dit, je vais pas lâcher, je vais y arriver. Enfin, ça réveille quelque chose de l'ordre du défi, en fait. Presque. Alors que c'est quand même vendu comme quelque chose d'assez naturel. Et on l'imagine comme quelque chose d'assez naturel. Mais en tout cas, ça a réveillé ce truc-là, ou de se dire, non, mais en fait, il y a plein de choses qui sont galères dans l'allaitement, quand même. Mais je vais pas lâcher le morceau, je vais me battre, je vais trouver une solution pour que ça marche, etc. Et je pense que c'est un peu, presque un avant-goût, en fait, de la combativité qui va aussi se mettre en place sur le reste de la vie de notre enfant. En fait, j'ai l'impression que c'est la toute première fois qu'on touche à ce moment-là. À ce moment où on va pas se contenter de cet échec ou d'une douleur, mais qu'on va vraiment essayer de mettre des choses en place pour que ça fonctionne. Et c'est un peu, je pense, ce qu'on va essayer de faire sur toute la vie, sur toute l'éducation avec notre enfant, quoi. Voilà, l'endurance, la persévérance.
Il y a une anecdote qui me marque pas mal, c'est que moi, j'ai de temps en temps des engorgements, notamment quand je suis amenée à utiliser le tire-lait. Ben, j'ai des engorgements, en fait, comme beaucoup de personnes qui allaitent. Et ça m'est arrivé une fois de dire à mon mari, là en fait l'engorgement il me fait encore plus mal que pendant l'accouchement quoi. J'avais vraiment l'impression que j'étais au bout en termes de douleur, au bout de ce que je pouvais encaisser. Mais je voulais absolument continuer d'allaiter, ma fille avait 4 mois à ce moment-là. Et donc je me suis fait mal en fait, parce que pour purger ce qui bloque dans le sein, il faut vraiment, il faut masser, il faut faire sortir les boules, les engorgements qui se sont formés dans le sein.
Cette question de continuer, par exemple si l'on aspire à suivre les recommandations de l'OMS sur les 6 mois d'allaitement au sein, elle vient aussi se cogner à notre organisation sociale. Leïla, par exemple, a tout bien fait. Elle s'est accrochée. Elle a souffert pour offrir ce qu'il y a de mieux à son enfant. Et puis au bout de 2 mois et demi, elle a eu le sentiment que la société l'a laissée tomber. Et ça peut décourager des femmes qui auraient envie d'allaiter.
Ce qui m'a frustrée, c'était la reprise du travail. La reprise du travail, donc au bout de 3 mois, moi j'avais pas beaucoup de congés à ajouter pour pouvoir avoir un long congé maternité, et puis je pouvais pas non plus financièrement me permettre d'être en congé parental. Donc j'ai repris tout de suite le boulot à la fin des 16 semaines de congé mat, et donc j'ai aussitôt arrêté, et ça a été assez dur parce que j'en avais pas envie. Donc je l'ai mal vécu, je pense que l'enfant évidemment le ressent et donc le vit pas hyper bien et donc veut pas tout de suite se mettre au biberon. Et 3 mois j'ai l'impression que c'était rien du tout et que c'est passé comme un éclair. Et je trouve par contre qu'il y a quelque chose qui est difficile dans la reprise du boulot d'une manière générale après un accouchement, où à la fois le passage en congé mat est hyper violent mais aussi le retour après le congé mat est tout aussi violent et que je pense qu'il faudrait avoir quelque chose d'un peu plus progressif dans l'avant et dans l'après. Et par ailleurs, tout n'est pas très adapté pour pouvoir tirer son lait au boulot. Enfin, moi, par exemple, j'avais pas, en tout cas, une salle qui pouvait être dédiée avec des stores qui se baissent pour que j'aille allaiter pendant ma pause déj, par exemple. Donc, si j'avais voulu continuer l'allaitement après la fin de mon congé mat, il aurait fallu que je me planque dans les chiottes et que je m'assoie sur la cuvette des toilettes et que je tire mon lait avec un tire-lait que je trouve en plus ignoble et déshumanisant. Et donc ça, c'était pas possible parce qu'encore une fois, l'allaitement pour moi était de l'ordre du plaisir, de la relation charnelle en fait avec l'enfant qui est au contact et que pour moi, le tire-lait, ça venait complètement... ça vient un peu animaliser quoi. Donc ça, c'était pas... Enfin, j'allais pas pouvoir retrouver du plaisir là-dedans. Et donc dans ce cas-là, je voyais moins... Dans la balance en tout cas... Je voyais moins d'intérêt à continuer cet allaitement. Par rapport au fait que j'ai arrêté aussi l'allaitement pour la reprise du boulot, c'était que je pense qu'il y a une rupture. Le fait de se dire « ça y est, je ne suis plus en congé maternité, donc je vais reprendre ma casquette de travailleuse et je laisse ma casquette de mère à la maison », c'est globalement un peu ce qu'on demande aux femmes. Et donc je pense que quand mon congé mat s'est terminé, je me suis dit « ok, là, tu mets de côté, ça y est, c'est quelque chose qui s'est terminé. Maintenant, tu vas reprendre ta casquette d'avant, en fait, d'avant congé mat. Donc, tu reviens, tu vas retourner sur ton petit bureau avec tes collègues, avec tes habitudes, ta station de métro, tes horaires, etc. Et donc, tu redeviens comme avant. Et comme s'il n'y avait pas de continuité, en fait, l'allaitement, quelque part, est venu incarner la rupture brutale que j'ai ressentie entre la fin du congé mat et le retour au travail. J'ai trouvé que c'était hyper violent, hyper culpabilisant aussi, mais des deux côtés. Culpabilisant côté travail et puis côté maternité. Et du coup, l'allaitement est venu un peu symboliser ça.
C'est là qu'allaiter n'est pas juste un sujet physiologique, mais aussi politique. D'ailleurs, quand Colline sort fièrement son sein, sans se soucier du regard des autres, elle le vit comme un geste féministe qui lui donne un sentiment de puissance.
Mais quoi ? Mais qu'est-ce qu'ils ont, mes seins ? Qu'est-ce qu'il y a ?
J'allaite vraiment partout et tout le temps. Et il y a un vrai plaisir, je trouve, en tant que féministe, à sortir mon sein en public. Alors, je ne le fais pas de façon... c'est pas de l'exhib, c'est pas une performance. Enfin, c'est forcément un geste qui devient politique, mais c'est un acte que je trouve assez libérateur, quoi. C'est une partie de mon corps qui devient visible. Sauf que personne n'a le droit de sexualiser mes seins, quoi. Dans ce moment-là, personne n'a le droit de sexualiser ma poitrine, personne n'a le droit de la critiquer, personne n'a le droit d'interdire que mon sein soit à l'air, parce que juste, en fait, je nourris ma fille. Ben, je trouve ça très beau, en fait, ce qu'on fait toutes les deux.
Reste que les regards des approbateurs existent, et ils s'ajoutent aux 1000 injonctions qui font qu'on a le sentiment de ne jamais gagner, ou même de toujours perdre. C'est exactement l'impression désagréable qu'a eue Cécile.
On m'a jamais fait chier là-dessus, par contre. On m'a jamais. Des gens m'ont déjà demandé pourquoi j'avais décidé de pas allaiter, quoi. Mais personne m'a jugé. Enfin, ou en tout cas pas face à moi. Alors que je sais qu'en plus, c'est pas parce que moi j'ai pas allaité au sein que je soutiens pas les femmes qui le font. Et en fait, ça me rend ouf à quel point je trouve qu'il y a, mine de rien, quand même une pression sociétale sur le fait d'allaiter au sein. Si tu regardes, enfin, toutes les campagnes, si tu regardes ce qui a marqué sur les boîtes de lait en poudre, qui est attention, hein, c'est pas aussi bien que l'allaitement au sein, tout ça. Donc tu te sens un peu coupable. Et de l'autre côté, le nombre d'histoires qu'il y a de meufs qui se font emmerder parce qu'elles allaitent au sein en public, ou qui ont du mal à justement continuer l'allaitement au sein parce que la façon dont est fait et le congé mat et le retour au travail en France est pas n'aide pas finalement à faire de la place pour les femmes qui veulent continuer d'allaiter au sein. Je trouve que c'est vraiment tu peux pas gagner quoi. Tu peux pas gagner. T'as tort dans tous les cas et t'es une mauvaise mère dans tous les cas.
Moi je crois fermement qu'il vaut mieux une mère qui allaite pas au sein et qui va bien que une mère qui allaite au sein parce que elle s'y sent poussée par la société ou par sa famille ou par n'importe quoi et qui est au bout de sa vie, qui est malheureuse, qui est en dépression postpartum ou pour qui ça empire et que ça stresse quoi.
Vous n'avez pas entendu dans cet épisode de conseils. Nous n'avons déboulonné aucune idée reçue sur l'allaitement. Nous n'avons répondu à aucune question pratique. Tout simplement car vous n'entendrez jamais ici de conseils de ce style. je ne dirai jamais « accrochez-vous, ça va marcher » ou « n'y allez pas, vous allez y laisser trop de plumes ». Mais ce que je retiens des histoires de ces femmes, c'est que c'est bien un choix que l'on fait pour son enfant, mais aussi pour soi. Elles le disent, allaiter est une expérience incroyable. C'est vrai pour elles, pas pour toutes les femmes. Et si vous avez envie de vivre cette expérience, donnez-vous les moyens de le faire, aussi longtemps que vous le souhaitez, chez vous, dans la rue et comme vous l'entendez. Moi, je suis un peu fâchée contre les discours qui disent « si les femmes n'allaitent pas, c'est qu'elles sont mal informées, qu'elles ne sont pas incitées ». C'est partiellement vrai, comme le montrent les chiffres de l'enquête nationale périnatale de l'INSERM. Certaines femmes ne vont pas au bout car elles sont mal accompagnées. Mais il reste un bon paquet de femmes qui n'en ont tout simplement pas envie. Et à celles-là, arrêtons de dire que c'est parce qu'elles n'ont pas fait l'effort d'aller taper « allaitement, comment faire ?» sur Google. Nous ne sommes pas des cruches, nous ne vivons pas dans une grotte. Ça n'est juste pas la manière dont nous voulons vivre notre maternité.
Au final, je vois souvent des... Je vois souvent passer un tweet ou sur Insta où il y a marqué « Peu importe que nos enfants soient allaités au sein ou au biberon, à 3 ans, ils seront en train de bouffer du sable par terre. » Je trouve ça très drôle. Et j'aime bien cette idée.
Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses. J'espère que ça vous a plu et que vous reviendrez. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique a été composée par Jean Thévenin. Si vous aimez ce podcast, mettez-lui plein d'étoiles et de commentaires. Envoyez-nous aussi vos questions, vos remarques et vos notes vocales à hello@louismedia.com. J'ai hâte de vous lire.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years, too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.